Cher secrétaire Nevet, cher président, vice-président Peterson, président Gordon, président Durham, et chers amis, j'aimerais exprimer mes remerciements à BYU pour m'inviter à ce symposium, à cette conférence importante, et à vous tous pour me donner la chance de partager des idées et mon expérience avec vous à propos de la religion et du droit. Ce soir, je parlerai de la religion et de l'autorité de la loi en Chine aujourd'hui. Et je vous donnerai une description très brève de ce développement en Chine. Dans la politique de la société moderne, il y a deux critères qui ont un consensus universel dans le monde. D'abord, la démocratie, et ensuite, l'autorité de la loi. Ces deux standards sont également réfléchis typiquement dans la législation sur la religion. Bien sûr, le développement de l'autorité de la loi dans l'histoire humaine a expérimenté un processus long et compliqué. Il y a eu différentes idées pour la législation dans différentes nations, chacune reflétant leur culture différente. Bien que chaque culture, la législation de chaque pays joue un rôle autoritaire dans les États et les régions concernées, il n'y a pas d'acceptation universelle sur l'importance de ces normes. Avec l'émergence de la loi internationale, dans la transition sociale de la vie de l'histoire moderne à l'histoire postmoderne, l'humanité réalise la nécessité, l'importance de standards universels dans la législation de choses pour l'intérêt commun. Surtout à l'époque, à l'ère de la globalisation, l'idée de la législation est maintenant une question de valeur universelle. Mais il y a toujours un débat important sur la question de savoir quelle serait la valeur universelle sur la législation. Dans l'histoire humaine, il y a des traditions législatives différentes. Par exemple, dans la tradition chrétienne et juive, la loi a été basée sur l'alliance entre Dieu et l'homme. Et plus tard, c'est devenu une base du contrat social dans la civilisation occidentale. Dans cet esprit d'alliance et de contrat social, les principes de la législation et l'autorité de la loi ont déjà une dimension essentiellement religieuse. Les traditions législatives romaines et grecques de droit public ont été plus tard combinées les traditions juives et chrétiennes de l'Alliance dans l'Église médiévale. Le résultat était la naissance d'un système légal de l'Église et la théocratie dans la société médiévale. Dans l'islam, il y a la tradition de la charia. Nous savons également qu'il y a beaucoup d'autres traditions légales, telles que le code de Hammurabi dans l'ancienne Babylone et le code Manu dans l'Inde ancienne. Et ce sont des traditions très légales très diverses. Et il n'est pas facile d'atteindre un compromis. Dans l'ancienne Chine, le système légal était compris comme la règle ou la loi du souverain, qui était en fait l'autorité du roi ou de l'empereur dans un système féodal. Pendant la période Pre-Qing, c'est-à-dire 221 avant Jésus-Christ, il y avait une école légale de pensée représentée par Shen Buyai, Shang Yang et Han Fei, qui proclamait l'autorité de la loi au lieu de la règle des rites. Et c'est la théorie que la loi de l'État et du peuple selon la loi. Mais cette loi était en réalité la loi du souverain et utilisée comme une méthode pour contrôler le peuple. En dépit de son nom, ce n'était pas vraiment un système légal véritable, mais plutôt représentait l'art de gouverner, de contrôler. Et dans cette structure ancienne de la Chine, il n'y avait pas de législation pour la religion. La relation entre la politique et la religion était toujours une relation qui subordonnait les religions. Alors le concept de l'autorité de la loi en ce qui concerne la religion en Chine devrait être compris comme un développement contemporain qui a un potentiel considérable et un avenir certain. La politique et la législation de la religion par le gouvernement révolutionnaire dirigé par le Parti communiste peut être étudiée jusqu'à la République soviétique et bien sûr par le gouvernement de Mao Tse-tung. En janvier 1934, la Constitution a établi des clauses que dans le domaine du nouveau gouvernement, les ouvriers, les paysans, les soldats de l'armée rouge et les ouvriers devaient être égaux en dépit de leurs différences de sexe, d'ethnicité et de religion. Le pouvoir soviétique chinois devait garantir la liberté de ses croyances religieuses. À la première conférence des représentants, le 15 avril 1936, le gouvernement Boba, dans les régions du Tibet, a passé sous le pouvoir rouge une loi provisoire concernant les temples du Lama. Parmi les 10 clauses en question, le principe de la séparation entre la politique et la religion a été mis en relief. La religion, l'interférence avec l'administration, l'éducation, la juridiction n'étaient pas autorisées, mais le lama pouvait avoir les droits politiques. En 1941, la loi provisoire pour protéger les peuples d'Aibei, en Shagong, de Shaidong, a promulgué la liberté de croyance. En 1945, le gouvernement provisoire, dans 3 régions révolutionnaires de Chili, Chiang et Ali, a été établi. En 1946, le gouvernement a promulgué une loi qui gère l'administration de la religion et qui nécessite l'enregistrement, l'inscription de toutes les religions, les associations de religion. Selon ce principe de respect de la religion, un département des affaires religieuses a été organisé en 1949. Avec la fondation de la République de Chine, la première conférence nationale le 30 septembre 1949 a publié un document intitulé « Le principe commun de la politique et parmi les caractéristiques de cette constitution ». On trouvait que tous les peuples de la République de Chine avaient la liberté de penser, de discours, de publication, d'assemblée, d'association et de communication, de résidence, de déplacement, de croyances religieuses et de démonstration. Depuis, la liberté des croyances religieuses demeure un principe de base dans la constitution de la République de Chine. Depuis la fondation de la République de Chine, 4 constitutions ont été adoptées. La première constitution a été approuvée par la première session du Congrès national du peuple en septembre 15-28 septembre 1954. Parmi les clauses de cette constitution, il est déclaré que les citoyens de la République de Chine ont la liberté des croyances religieuses et que les citoyens au-dessus de 18 ans ont le droit de voter et d'être élus, quelle que soit leur nationalité, leur ethnicité, leur sexe, leur profession, leur origine sociale, leur croyance religieuse et leur période de résidence. La seconde constitution, qui a été publiée à la suite du congrès du 17 janvier 1975, a ignoré les libertés religieuses à cause de l'influence de la révolution culturelle à cette époque. La troisième constitution a été prouvée par la première session du 5e congrès national du peuple le 5 mars 1978. Une phrase a été utilisée pour exprimer les principes concernant la religion, c'est-à-dire que les citoyens ont la liberté de croire dans leur religion et aussi la liberté de ne pas croire dans une religion et de propager l'athéisme. La quatrième constitution a été publiée par la cinquième session de la du cinquième congrès national du peuple le 4 décembre 1982. Cette constitution a été révisée 4 fois par la première session du septième congrès national du peuple le 12 avril 1988, la première session du huitième congrès national du peuple le 29 mars 1993 et la seconde session du 9e congrès national du peuple le 15 mars 1999 et la seconde session du 10e congrès national du peuple le 14 mars 2004. C'est la constitution courante qui a détaillé les clauses sur la religion au chapitre 2, les droits de base et les devoirs des citoyens. Comme ses prédécesseurs, l'article 34 fournit ou indique que les citoyens au-dessus de 18 ans ont le droit de voter et d'être élus sans qu'on considère leurs différences de nationalité, d'ethnicité, de sexe, de profession, d'origine sociale ou familiale, de croyances religieuses, d'éducation et de leur période de résidence. L'article 36 a d'autres clauses additionnelles. Les citoyens de la République de Chine ont la liberté de religion. Aucun département gouvernemental, aucune organisation sociale ou individuelle ne peut obliger les citoyens à croire ou ne pas croire dans leur religion ou exercer de la discrimination contre les citoyens sur la base de leur croyance ou leur manque de croyance dans la religion. L'État protège les activités religieuses normales et aucune religion ne peut exercer des activités qui détruisent l'ordre social ou menacent la santé des citoyens ou le système éducatif. Et les organisations religieuses et les affaires religieuses ne peuvent pas être contrôlées par des pouvoirs étrangers. La Constitution est la base de toute législation et ses clauses sur la religion devraient également la base pour discuter des problèmes religieux. Néanmoins, étant donné que les articles de la Constitution sont souvent exprimés en termes généraux et abstraits, il n'est pas toujours facile de les appliquer dans la pratique. Il est nécessaire pour la Chine de développer une législation sur la religion. Dans ce sens, l'amélioration de l'autorité de la loi dans les affaires religieuses est un élément important du développement du gouvernement actuel du TPI par la loi et dans un pays socialiste. L'idée de l'autorité de la loi dans les affaires religieuses et l'utilisation de la législation dans la religion contemporaine en Chine peut être tracée jusqu'aux années 1980. Le 31 mars 1982, le comité central du Parti communiste chinois a formulé les points de vue de base sur les problèmes religieux dans le pays. C'est le document numéro 19 qui représente le début de toutes les clauses et les directives du Parti communiste chinois à propos de la religion. La partie 6 du document numéro 19 indique que, de manière à garantir la normalisation des activités religieuses, l'État établira des lois et des règlements sur la religion selon les procédures légales et avec la consultation des représentants des cercles religieux. Peu de temps après la rédaction de ce document, le Congrès national du peuple a établi une nouvelle constitution qui traite les principes de liberté religieuse. Cette constitution a changé au moment des réformes en Chine et dans un climat d'ouverture vers le monde extérieur. Il y a toujours beaucoup de problèmes pour comprendre la religion dans la Chine contemporaine. La meilleure façon d'établir un consensus dans l'administration de la religion par la loi. Et conséquemment, il y a un désir de plus en plus fort de trouver des relations entre la religion et l'autorité de la loi. Ainsi, vous pouvez vous demander quelles sont les lois sur la religion que nous avons maintenant et quel genre de loi est-ce que nous voulons établir. À propos des lois et des règlements sur la religion en Chine aujourd'hui, depuis 1978, en rapport avec la nouvelle réforme en Chine, certaines lois et règlements concernant les affaires religieuses ont déjà été mises en place. À la suite de l'esprit de la provision de la Constitution, la Chine a mis en pratique des lois sur la religion. Il y a deux catégories de lois qui gouvernent l'administration de la religion en Chine aujourd'hui. D'abord, des lois qui ont été émises par le Congrès national du peuple, et deuxièmement, les règlements promulgués par le Conseil d'État et ses départements. Dans la première catégorie, il y a des clauses constitutionnelles et statutaires émises par le Congrès national du peuple concernant la liberté religieuse qui inclut certaines lois. Il y a un certain nombre d'articles qui touchent ces droits. Et dans la seconde catégorie, il y a différents degrés sur la religion et certains décrets du Conseil d'État et des règlements spéciaux, des régulations administratives sur la religion de départements sous le Conseil d'État. Il y a également d'autres règlements administratifs qui ont été émis par l'administration des affaires religieuses. Le Congrès du peuple a également établi des règlements similaires. La situation donc en Chine en ce qui concerne la loi et la religion est donc à décrire en deux catégories. D'abord, les articles dans la Constitution à propos de ces lois. Deuxièmement, les décrets administratifs du Conseil d'État. Et troisièmement, les règlements du SARA. Et quatrièmement, les décrets, les règlements des congrès du peuple locaux et du gouvernement local. Il n'y a pas de loi décisive. Pas de loi compréhensive et fondamentale sur la religion par le Congrès du peuple, qui est la base de l'autorité de toutes les lois et des règlements sur la religion. Pourquoi y a-t-il une hésitation ou un délai aujourd'hui en Chine pour mettre en place une loi compréhensive sur la religion? Le problème essentiel est que ce n'est pas aisé. Ce n'est pas facile d'avoir un compromis sur le but et l'usage d'une telle loi sur la religion dans la Chine contemporaine. Et pour avoir une loi compréhensible sur la religion, nous devons pouvoir clarifier les différences suivantes. D'abord, il y a deux opinions en ce qui concerne la compréhension de la religion dans la Chine, dans le contexte chinois. Une opinion interprète ou explique la religion d'un point de vue positif et croyant que la religion peut s'adapter à la société socialiste de la Chine contemporaine et contribuer de manière significative à la conformité, à l'harmonie de la société. L'autre opinion met en valeur les différences entre la conscience religieuse et le monde et les systèmes de valeurs de la socialiste. Et ça suggère que ces différences créent donc une tension entre deux systèmes de valeurs. Et donc ça fait que la religion ne peut jouer qu'un rôle positif ou négatif. le passif ou négatif dans une société socialiste. On peut imaginer qu'il y aura un front unité entre la religion et le socialisme, mais il n'y aura pas d'unité au niveau idéologique. Deuxièmement, il y a deux différences d'interprétation de la liberté religieuse en Chine. Une interprétation dit que la liberté de religion inclut une liberté absolue, pas simplement une liberté de religion, de foi, de pensée, d'idées, mais aussi d'action et d'organisation. L'autre interprétation proclame que la liberté religieuse inclut la liberté absolue, simplement dans la foi religieuse, les pensées. Mais parce que ce genre de choses fait partie de la sphère privée. Mais en ce qui concerne les activités ou les organisations religieuses, la religion ici ne doit avoir qu'une liberté relative, puisque les organisations religieuses et sociales doivent être sous le contrôle d'organisations sociales. Donc la religion, ce n'est pas simplement privée, une question individuelle, mais manifeste en elle-même une organisation religieuse qui engage dans des activités avec d'autres dans la société. Et ça doit être transparent dans son existence sociale. Et donc, cette organisation doit obéir à des lois sociales et accepter une supervision. Troisièmement, il y a deux buts proposés pour une législation sur la religion en Chine. Un but proposé est de protéger la liberté religieuse. La législation religieuse exprimée dans ce but introduit donc un respect de la liberté religieuse et de la foi. Mais l'autre but proposé est de contrôler la religion, ou au moins de contrôler l'organisation et les activités religieuses. Ceux qui soutiennent ce but ne sont pas très sûrs de la fonction sociale et de l'influence de la religion. Et c'est pourquoi ils proposent, afin d'éviter tout problème, qu'il devrait être utile d'utiliser la loi pour contrôler et superviser la religion. Cette différence se reflète et crée une grande disparité dans la valeur sociale et la signification sociale de la religion dans la Chine d'aujourd'hui. Quatrièmement, il y a deux façons de développer la législation sur la religion en Chine. Une façon, à cause de la liberté religieuse chez tous les citoyens, ce droit doit être protégé dans l'esprit de la Constitution. La loi doit donc garantir ce droit fondamental de la pensée religieuse, de la croyance religieuse parmi son peuple. Mais l'autre manière de développer une législation sur la religion concerne la législation comme un moyen pour l'administration du gouvernement de la religion. Ainsi, la loi sur la religion devrait se concentrer sur les règles et qui puissent satisfaire aux besoins du gouvernement pour l'administration des affaires religieuses. C'est parce que la législation devient donc un moyen administratif. Les problèmes que je viens de mentionner expliquent les défis actuels pour comprendre et d'établir une loi sur la religion. Les paradoxes sur la compréhension de la législation sur la religion, il est clair que nous avons beaucoup de choses à faire. À mon opinion, selon moi, la chose la plus importante n'est pas d'atteindre un consensus sur la législation de la religion, mais plutôt un consensus sur la compréhension du rôle de la religion elle-même dans la Chine contemporaine. C'est seulement en comprenant la religion que nous pourrons traiter la religion. Si nous comprenons la religion comme un facteur actif et harmonieux dans la Chine d'aujourd'hui, Alors, nous pourrons mettre en place une législation sur la religion pour protéger au lieu de restreindre sa liberté.